une place au fond de ta bulle. Et si je t'agace, si je suis trop nul, je deviendrai tout pâle, tout muet. Fais-moi une place au fond de ton cœur pour que je t'embrasse lorsque tu pleures.
Ya Pouchourl, Lévi Crossi, Orlep, la Fonaïram Radio Center, Judaïka, me revoilou avec mon émission Mormir Pletzel. Fais-moi une place, les émissions se suivent depuis belle lurette et chaque invité est prestigieux que je porte au bout du micro jusqu'à vos oreilles. Mais avant de démarrer ma chronique, le rouge est allumé dans le studio, laissez-moi vous souhaiter une belle et merveilleuse année 25. Que cette nouvelle année soit heureuse, que la paix, les flâneries, la santé, le partage vous tiennent lieu de fortune. Bonne année aussi aux trois anges de la radio Judaïka, à Valérie, Sybille et Thomas qui est dans son studio à côté, qui est aux manettes. Sans eux, rien n'est possible. En ce bon matin, on écoute avec notre invité surprise des gazouillis. Écoutez, il n'y a rien à voir, mais à entendre. Pchut, on écoute. Ça fait rêver, non, les chants d'oiseaux. C'est de la zénitude, de la relaxation, ces chants mélodieux. J'ai fait une place au monde fascinant des oiseaux, un bel animal aux plumes chatoyantes et aux chants mélodieux. Alors j'ai une invitée surprise qui gazouille toute l'année parce qu'elle s'occupe d'oiseaux. Bonjour Cathy Xell, comment vas-tu ?
Bonjour André, ça va et toi ?
Ça me fait plaisir de te voir ici chez nous, Radio Judaïka, parce que tu as également une chronique à une autre voisine, à une autre radio sœur en fait.
Oui, une fois par mois, j'ai la possibilité de parler d'un sujet qui me plaît. Pas forcément que sur les oiseaux, aussi sur la nature en général.
Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que la nature ? Qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'un chant d'oiseaux ? De prendre son petit déjeuner dans un jardin, d'écouter chanter les oiseaux et de regarder cette nature. Elle est tellement belle, on a tellement besoin d'elle. Mais est-ce que tu penses qu'elle a besoin de nous, la nature ?
Ah, grande question, grande question. Ce qui est sûr, c'est que oui, on a besoin d'elle et souvent, quand on a besoin de se déstresser ou on a besoin de faire le point ou de changer d'air, on va souvent, en tout cas, si ce n'est pas dans la nature, dans un parc, mais en tout cas, on a besoin de s'éloigner un peu des humains, on va dire.
Je vois que tu connais bien la radio. Hein. Est-ce que quand tu parles à ta radio, est-ce que tu parles aux oiseaux ? Tu parles comme eux ? Tu siffles comme les oiseaux ?
Ah, j'aimerais bien savoir siffler, mais c'est pas un talent que j'ai malheureusement.
Alors, tu as un métier. Ton métier, c'est un beau métier. Tu t'occupes d'oiseaux à la LPO et pas la OLP. Hein.
Non, la LPO.
Et c'est quoi la LPO ? Raconte-moi.
Alors, la LPO, c'est la Ligue pour la protection des oiseaux. C'est une vieille association, hein. Elle a été créée en 1912, donc wow. C'est vraiment une...
Mais pas par le duc Grimbourg, là, le monsieur.
Non,
là,
il vivait pas encore.
Il est très médiatisé, là.
Oui, c'est notre président national, hein, Alain Bougrain du Bourg.
Exactement.
Non. En 1912, en fait, la LPO a été créée parce que sur les sept îles en Bretagne, ce sont des îles qui accueillaient beaucoup de macareux moines, ces petits...
C'est d'ailleurs votre logo ?
C'est notre logo.
Le macareux, avec le bec orange, là.
Ouais, le bec tout coloré. Tout et coloré. En fait, à cette époque-là, ben, les gens, ils avaient comme sport national de massacrer ces petits oiseaux. Ils les prenaient avec... Parce qu'au moment où ils nichent, ils sont sur les rochers. Et donc, ils venaient avec des épuisettes et ils les ramassaient. Et la gloire venait à celui qui avait capturé le plus de macareux, qui ne mangeait pas.
C'est pas pour les manger, effectivement.
C'était un sport national.
C'est horrible.
Donc, et il y a eu ce soulèvement des amoureux de la nature à ce moment-là qui ont... créer la première réserve de France, c'est sur ces sept îles, c'est en Bretagne et c'est en 1912.
D'accord. Donc la LPO sert à protéger les oiseaux, mais les oiseaux en général, il faut les protéger, tu penses ? Ils ne peuvent pas se protéger eux-mêmes ?
Alors, c'était souvent, pendant très très longtemps, c'était la Ligue de protection des oiseaux. Maintenant, c'est le statut un peu changé et on protège vraiment la nature en général. Parce que protéger un oiseau, si on ne protège pas son habitat, ça ne sert pas à grand-chose. Et en fait, nos activités, à nous humains, nos infrastructures, toutes nos actions, nos activités a un impact très négatif sur les oiseaux, donc bah, il faut les protéger.
Ouais. Et dans toutes les régions, en fait, il y a une LPO. Partout, dans toutes les grandes villes. Enfin, je ne sais pas, je vois souvent dans les boîtes aux lettres, refuge LPO, mais ça, on en parlera un peu plus tard pour savoir comment on peut devenir propriétaire de cette plaquette et comment on fait pour les protéger dans son propre jardin.
Oui. Mais, en fait, il y a des LPO à peu près partout, pas partout, parce que ça reste une association indépendante. Hein, on ne dépend pas de la LPO France. Donc, il faut que dans chaque région, il y ait des amoureux de la nature qui s'organisent, s'organisent de manière à créer une association structurée. Donc, en Alsace, on est nombreux. Hein, on est 25 salariés. C'est une grosse association.
Ouais, c'est une grosse entreprise. Mais c'est quoi ? C'est des mécènes qui vous donnent des sous ? Ou c'est l'État ou...
Non, c'est varié, on va dire, comme toute association à but non lucratif. On a des subventions, on a des dons, on a l'adhésion quand on adhère, ça, c'est aussi une source de financement. Donc il y a une variété de financements possibles, mais on va dire, il y a peut-être certaines régions où il y a des toutes petites LPO ou alors des LPO composées uniquement de bénévoles. Donc c'est très variable et ça dépend vraiment de la région.
Et toi, en fait, tu t'occupes un peu de la communication aussi de cette LPO Alsace. C'est toi qui communiques avec la presse, avec...
Voilà, c'est ça. En fait, c'est très bien de protéger les oiseaux, hein, la nature, mais ce qu'on a envie, c'est aussi qu'un maximum de gens protège la nature, change de mentalité, ne prenne plus la nature comme quelque chose qui fait peur, dont on se méfie, qui est sale. Hein. Souvent en Alsace, on dit « Ouh là là, les pissenlits, c'est sale, les étourneaux, on n'en veut pas ». Donc, mon rôle, c'est aussi de faire connaître au plus grand nombre, au grand public, mais aussi aux entreprises, aux élus, de faire connaître cette nature, de faire connaître nos actions pour qu'au final, tout le monde se sentent concernés et fassent quelque chose de positif.
Tu protèges plus les arbres, l'herbe, la nature que les oiseaux ? Non, c'est plutôt les oiseaux quand même.
En fait, notre levier d'action, on travaille avec mes collègues, ce sont des ornithologues à la base, mais la plupart d'entre eux s'y connaissent très bien dans toutes les groupes d'animaux, toutes les disciplines. Et je prends souvent l'exemple, quand dans notre centre de soins, on va recevoir un petit oiseau blessé ou un rapace.
S'il est où ce centre de soins ? Il est à quel endroit ?
Il est à Rosenvillers, c'est là où se situe le siège de la LPO.
D'accord.
Donc on a une espèce d'hôpital, on va dire, pour faune sauvage, hein, pas que pour les
c'est
oiseaux.
C'est comme un peu à Vissembeau, ce qu'il a là, la petite pierre.
Oui.
Ça, c'est pour les rapaces, hein, je crois.
Non, c'est pour tout aussi.
Ah, pour tout aussi.
C'est pour la faune sauvage en général, donc on peut aussi nous apporter des hérissons, des écureuils, un lézard, hein, tout ce qui est faune sauvage.
Mais comment tu soignes un lézard ?
mes collègues sont particulièrement talentueuses. Si c'est une petite plaie, hein, on va désinfecter la plaie, etc., on va les protéger. En tout cas, quand on a soigné cet oiseau, si on le relâche dans la nature et que cette nature, elle est complètement détruite, on va le retrouver 3 mois plus tard.
Plus tard, oui, c'est ça.
Donc l'idée, nous, c'est de créer des espaces de nature les plus préservés possibles, les plus naturels possibles, pour que cette faune sauvage puisse vivre sa vie d'animal sauvage.
Hein. Ah oui, okay.
Elle n'a pas besoin de nous, ça c'est sûr.
Ah, hein. C'est évident. Ouais. Alors, moi hier soir, j'ai regardé un petit peu sur le net, comprendre un petit peu, j'ai lu des études scientifiques qui disent que autour de la planète, sur notre Terre, il y a plus de 400 milliards d'oiseaux pour les 8 milliards d'habitants, ce qui fait à peu près 50 oiseaux par habitant. C'est quand même énorme. Il y a beaucoup d'oiseaux quand même qui tournent autour de nous.
Alors, il y en a beaucoup. Je pense qu'il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Hein.
Encore plus que ça
Alors, le chiffre, je ne le connais pas. Il me choque
ça,
pas.
J'ai regardé ça. J'ai déjà entendu des émissions à la radio, d'ailleurs de ton président également.
Oui.
Je l'avais déjà entendu parce que dès qu'il parle, j'écoute toujours un peu ce qu'il raconte.
Ouais.
Je trouve je connaissais bien ce monsieur. Mais en fait, ce chiffre, je l'ai lu et plusieurs fois, donc ça me paraît juste.
Oui, c'est très certain. certainement juste. Ça ne me choque pas, en tout cas. Mais ce qui est sûr, c'est que, de manière générale, le nombre d'oiseaux baisse, chute. Donc, on peut imaginer qu'il y en avait beaucoup,
plus. Tu veux dire
plus.
À cause des prédateurs, ou à cause de la pollution, à cause de quoi?
Alors, il y a beaucoup, beaucoup de facteurs. Hein. S'il n'y en avait qu'un, on se dirait on peut agir sur ce facteur. En fait, la première cause de disparition, mortalité. La menace, la principale, c'est la perte de l'habitat.
Ah.
C'est-à-dire, si je prends un exemple concret, un oiseau qui va dépendre de nos forêts, si on détruit la forêt, on détruit son habitat. Et donc, cet oiseau, il ne va plus avoir d'endroit, ni pour se reproduire,
pour
ni
nicher.
Pour passer l'hiver, ni pour se nourrir. Et donc, c'est la première cause de diminution.
Ah, ouais.
Les humains, on va prendre de plus en plus de place, hein. On va étendre nos villes, on va construire des routes, etc.
Ouais, exactement, ouais.
Et donc, c'est la première cause. Il y en a bien d'autres.
Hein. Bien d'autres. Alors, où est-ce qu'on trouve tous ces oiseaux? Dans les mégapoles, dans les grandes villes ou dans nos jardins? Ils sont où, les oiseaux?
Alors là, j'aimerais bien poser la question. Si je te disais, combien est-ce que tu connais d'espèces d'oiseaux en Alsace?
À vue de nez, mais je connais la mésange, je connais le merle, je connais le courlis, je connais quelques oiseaux. Maintenant, les noms ne me viennent pas. Si tu me l'avais dit avant, je l'aurais un peu préparé.
Mais on va dire une dizaine d'oiseaux.
Voilà,
dizaine
j'en
d'oiseaux.
Connais. Je connais aussi les oiseaux migrateurs.
Ouais.
Parce qu'avec vous, j'ai déjà fait des comptages il y a bien longtemps.
Mm-hmm.
Parce que c'est d'ailleurs la période, hein, où on va en parler plus tard, où vous comptez les oiseaux migrateurs, les oiseaux aussi d'eau,
oui.
Qui hivernent, tout ça.
Oui, on fait beaucoup de comptages à différents moments de l'année. Mais je veux dire, pour revenir à ta question préalable, grosso modo, les gens connaissent, on va dire, une dizaine, une douzaine d'espèces d'oiseaux. En Alsace, il y en a 300.
300 espèces,
ouais, wow. Entre les hivernants, hein, donc ceux qui passent l'hiver chez nous,
okay,
et
d'accord.
Ceux qui se reproduisent.
D'accord.
Donc, ça veut dire que la très grande majorité des oiseaux ne sont absolument pas connus.
Pas
si
connu.
Je dis, par exemple, le cochevit huppé, le dickname criard, des noms qui ne sont pas connus.
Non, ça que je connais pas.
Ce qui veut dire que nous, on ne connaît pas notre faune sauvage. On ne sait pas quels sont les oiseaux qui nous entourent. Donc, la grande majorité des oiseaux vivent dans la nature, loin des hommes. Et ceux que tu citais, le merle, la mésange, le rouge-gorge, le pinson, etc., c'est la petite part des oiseaux qui vont cohabiter avec nous, avec les humains.
Dans les villes,
dans les jardins, dans les parcs, dans la campagne. Mais il y a une grande partie qu'on ne connaît pas parce que ce sont des oiseaux discrets, ce sont des oiseaux pas forcément colorés, et ce sont des oiseaux qui vivent très loin des hommes, qui ont peur des hommes. Donc, ça montre à quel point nous, on connaît pas beaucoup notre environnement. Et souvent, quand on parle de la disparition de la biodiversité, on va mettre en exergue l'ours polaire ou le rhinocéros.
Ouais.
Mais autour de chez nous, il y a des oiseaux qui disparaissent.
Qui disparaissent.
Ah oui.
Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. On va juste un tout petit peu se reposer les oreilles et écouter une belle petite musique symphonique des oiseaux. Tu vas voir des deux personnages que tu connais sans doute de la Somme. Là.
Okay.
Vas-y voir, mon cher Thomas. Mets-nous voir cette belle chose. C'est étonnant, hein, ça. Ces deux messieurs qui viennent de la Somme, en fait, depuis leur enfance, l'adolescence, ils ont appris à chanter comme les oiseaux parce qu'ils sont passionnés par la nature. Et aujourd'hui, ils tournent dans toute la France, ils font des concerts. Je crois d'ailleurs qu'ils viennent au mois de janvier ou février en Alsace.
Oui, tout à fait. Je crois qu'ils viennent dans le Haut-Rhin. Mais c'est vraiment très, très beau. Ouais.
J'irai voir leur date. Et c'est étonnant ce qu'ils font. Ils s'appellent Jean Boucault et Johnny Rass. Je ne sais pas si tu as t'as déjà entendu, on les a beaucoup entendus sur les ondes, hein, même à la télé, maintenant ils sont avec des orchestres symphoniques et ils gazouillent comme les oiseaux. C'est beau ce qu'ils font.
Oui, et puis ça, je pense que ça plaît en plus, ça montre bien l'intérêt des gens pour ces mélodies.
Pour c'est des chants d'oiseaux, on les appelle les chanteurs d'oiseaux, c'est juste délicieux ce qu'ils font, je trouve.
Oui, oui, c'est vrai.
Revenons un petit peu en Alsace, parce que tu m'as parlé, Cathy, de tout ce nombre d'oiseaux, il y a plusieurs 300 espèces en Alsace. Et comment faut-il faire pour les nourrir en hiver? Qu'est-ce qu'il faut faire pour les soigner, les protéger, nous les humains? Comment on peut les aider pour leur trouver, pour leur faire casser la graine, quoi?
Alors, la première chose à savoir, c'est qu'en soi, on n'aurait pas besoin hein, de leur donner à manger les oiseaux. Leur biologie leur permet tout à fait de survivre en hiver. Hein.
Mais même quand il y a de la neige et qu'il y a du givre et que tout est verglacé, comment?
Alors, en soi, oui. Simplement, on va se dire, on leur cause tellement de dommages par nos autres activités que pendant cette période hivernale qui est quand même un challenge, hein, c'est quand même difficile. La météo, c'est vraiment une période difficile l'hiver pour ces oiseaux, on leur donne un petit coup de main. Mais comme tu disais, ce qui est important, c'est de leur donner ce petit coup de main quand vraiment le froid s'installe. Les oiseaux qui restent chez nous, la plupart partent, hein, les insectivores.
Les cigognes de l'orangerie.
En fait, c'est une question d'alimentation. Donc, quand il n'y a plus à manger, pour les espèces, par exemple, insectivores, ceux qui se nourrissent d'insectes en vol, en hiver, il n'y a plus d'insectes, tous ces oiseaux, ils vont partir dans des régions plus chaudes où il y a encore des insectes.
Mais donc ils vont en Afrique, ils vont
Alors, il y a des migrations courtes, donc qui vont aller plus au sud, là où il ne fait pas trop froid.
Et où dans le Luberon, non.
Voilà, dans le sud de la France. Il y en a qui vont faire des migrations très longues, qui vont aller en Afrique subsaharienne.
Wow.
Donc tout ça c'est en fonction des espèces. Et les oiseaux qui restent chez nous, ou ceux qui sont rejoints par des populations qui viennent du nord, ce sont essentiellement des granivores, ceux qui mangent des graines. Et donc, quand il y a beaucoup de neige, quand tout est gelé, ces graines, elles sont difficilement accessibles. Donc là, nous, humains, on peut donner un petit coup de pouce. Une fois de plus, c'est uniquement pour les espèces d'oiseaux qui fréquentent les régions urbanisées, hein, où il y a des gens. Et dans ce cas-là, on peut leur mettre des graines dans des mangeoires. On peut aussi leur mettre de l'eau liquide, parce que souvent, quand il fait très froid, il n'y a plus tellement d'eau liquide. Ah oui. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'oiseaux qui vont s'abreuver dans le Rhin.
Oui,
il leur faut
sûr.
Des flaques d'eau, etc.
Ouais.
Et du coup, pendant ces mois très froids, janvier, février, on peut leur donner à manger.
Et est-ce qu'un oiseau peut jeûner longtemps?
Alors, les tout petits oiseaux, non. Hein. Ce qu'on appelle des passereaux, donc ces petits oiseaux...
C'est la grande famille de tous ces oiseaux que tu as cités, les 300 espèces. Là.
Non.
Non, ce n'est pas des passereaux.
Alors, les passereaux, c'est vraiment les petits oiseaux de type moineau, mésange, pinson. Ça, c'est les tout petits oiseaux qui chantent, qui font des chants mélodieux. Les rapaces, ce n'est pas des passereaux.
Les
mouettes, les ce sont pas, les canards, ce ne sont
bien
pas
sûr.
Des passereaux. Donc ces petits oiseaux, il faut qu'ils mangent régulièrement. Hein, ils ne peuvent pas jeûner longtemps. En revanche, des oiseaux de plus grande taille, eux peuvent jeûner quelques jours. Voilà, la cigogne, elle peut jeûner quelques jours.
De toute façon, elles ne sont plus là. Elles sont parties en Afrique, je pense.
Elles ne partent plus en Afrique.
Mais on ne les voit
forcément.
Plus à l'orangerie. Elles sont où,
oui,
là?
Alors en fait, l'Alsace, c'est particulier par rapport aux cigognes. Il y a une petite population qui est sédentaire. Ça, c'est historique, mais là, il faudrait carrément faire une émission spéciale cigogne. mais il y en a beaucoup.
On la fera plus tard, si
d'accord,
tu veux.
D'accord, avec plaisir. mais la plupart des cigognes migrent, effectivement. Alors maintenant, elles ne migrent plus toutes en Afrique, parce que le réchauffement climatique fait que, ou le changement climatique, mais fait que une partie de ces cigognes ne vont pas plus loin que l'Espagne ou même le sud de la France. Tout est toujours cette question de disponibilité en nourriture, en fait.
D'accord, alors on parlait de nourriture, mais il y a aussi une nourriture qui ne leur va pas très bien, c'est les boules de graisse là, qui sont dans les filets jaunes et qu'on met au balcon, et ça c'est quand même assez dangereux pour l'oiseau.
La qualité de la nourriture peut être intéressante. Il faut juste être toujours vigilant quand on fait une action aux actions qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas. En fait, ces petits filets jaunes ou verts, c'est du plastique. Et donc, quand la boule de graisse est mangée, on a ce petit filet en plastique qui va devenir un piège plus tard. Et d'autre part, on a aussi toujours à cœur de se demander de quoi est faite cette graisse. Si c'est de l'huile de palme qui provient d'une forêt tropicale à Bornéo et qui a provoqué la déforestation, non, il faut toujours penser global. D'où vient ma boule de graisse?
Parce que cette graisse peut leur donner du cholestérol, comme nous les humains,
non.
Par exemple?
Alors non, les oiseaux ont besoin de gras. Ce qu'ils n'ont pas besoin, c'est de glucides. Donc il ne faut pas leur donner des miettes de pain. Le pain, c'est du glucide.
C'est
D'accord. Du gâteau, etc.
Ouais,
surtout pas de sel, hein, pas de fromage, de lard, juste des graines.
Du beurre, en fait, voilà, les gens mettent des fois du plaquette de beurre à l'extérieur des fenêtres.
Ouais, alors on va dire le beurre, c'est pas catastrophique, hein, mais le plus simple, c'est un produit non manufacturé, des graines. On peut mettre aussi des pommes blettes au sol, des noix,
des petits...
ranses, ce genre de choses. Et diversifier les endroits. On peut soit accrocher dans des mangeoires qui sont suspendues, soit le poser sur un mât un peu haut en le protégeant des chats,
des
évidemment.
Chats, ouais, parce que c'est le prédateur en fait de l'oiseau.
Les chats, oui, sont des prédateurs. Disons que c'est difficilement compatible d'avoir un chat dans son jardin nourrir les oiseaux ou de mettre un nichoir plus tard au printemps. Plus tard, ça va pas trop.
Ouais. On en parlera un peu plus tard si on a encore le temps.
Ouais.
Mais alors, les oiseaux ont-ils le temps de vieillir avant de s'envoler vers les étoiles?
De vieillir?
Ouais.
Ah ben, j'espère bien qu'ils peuvent vieillir.
Mais combien, par exemple, un oiseau peut atteindre quel âge? Une mésange, un roi?
Alors, c'est très variable. Les tout petits oiseaux, ces fameux passereaux,
ces petits
mésanges, ça peut vivre 2-3 ans.
Pas plus que ça?
Non, ça ne vit pas très longtemps. En revanche, le plus gros des oiseaux, je ne sais pas si tu sais quel est le plus gros oiseau volant au monde.
Oh, là, tu me poses une colle.
Il y en a beaucoup. Le plus grand oiseau, en termes d'envergure,
c'est le rapace, c'est le...
Non, en fait, celui qui a la plus grande envergure, c'est-à-dire...
Milan, non?
Non, alors, je vais parler dans le monde.
D'accord. Alors...
Dans le monde, c'est l'albatros.
Ah, l'albatros, ouais.
Il a 3,50 m
d'envergure.
Eh bien, le plus vieux qui a été mesuré, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas des plus vieux, il avait 63 ans.
Waouh.
Donc, il peut y avoir aussi des très vieux oiseaux, quoi.
Et un perroquet aussi peut vieillir, hein, je crois.
Ah oui, mais alors ceux-là, ils ne vivent pas en Alsace. Donc, mais oui,
peut-être dans les cages.
Le fameux courlis cendré dont tu parlais, il peut vivre 15-20 ans,
ouais,
par exemple.
Vrai. D'ailleurs, il y en a de plus en plus dans nos forêts.
Oh, il n'y en a plus du tout.
Il y en a plus
du tout.
En fait,
le courlis cendré, qui est l'oiseau typique des rides.
C'est un bel oiseau avec un bec tout recourbé, comme ça.
Voilà. Alors lui, c'est l'oiseau qu'on voit sur le panneau d'autoroute quand on va entre Strasbourg et Colmar. Hein,
on
le voit avec son grand bec courbé, qui dépend des prairies humides. Eh bien, il est en voie d'extinction en Alsace. Il n'y en a plus.
Quelle
parce
tristesse,
que
ouais.
ces rides disparaissent.
Bah, écoute, on va écouter un petit chant d'oiseau, tu vas voir. Mets-nous voir la petite musiquette, là, le merle noir. C'est beau, non?
C'est beau.
Tu connais ce chant d'oiseau?
Oui, c'est tous ces fameux passereaux là, qui chantent. Ils ont des chants extrêmement mélodieux. Il y en a d'autres. Hein. Il y a la fauvette à tête noire, il y a le rossignol. Le rossignol est très connu.
C'était une merlette, hein, je crois, qu'on a entendu là.
Certainement.
Oui, je crois. Si, j'ai regardé ça.
Un merle.
Un
merle qu'une merlette, d'ailleurs.
Ah, d'accord.
C'est plutôt les mâles qui chantent.
C'est plutôt les garçons qui chantent bien, alors.
Et oui, pour définir leur territoire et attirer la femelle.
Moi, je chante comme une casserole, donc je ne permettrai pas de chanter. Alors, dis-moi, Cathy, quel est ton oiseau préféré à toi?
Alors moi, si je pouvais, je me réincarnerais bien en chocard à bec jaune.
Quoi?
Il n'y en a pas en Alsace.
Ah ouais?
Non, c'est un oiseau, comme je suis fan de montagne, c'est un oiseau qu'on trouve facilement en montagne.
Dans les Alpes, par exemple?
Ouais, dans les Alpes. Et il vit en groupe, il n'a pas peur des humains non plus, j'adore. J'adore cet oiseau.
Adores. Bah, écoute, on va écouter un tout petit peu Juliette Gréco qui chante le merle blanc, tu vas voir. C'est très, très, très beau, avant de continuer.
Un merle blanc est entré dans mon cœur, la porte était grande ouverte, ouvrit ses ailes au milieu de mon cœur, mais j'étais toute déserte. Alors un arbre est entré dans mon cœur, la porte était grande ouverte, et les saisons au milieu de mon cœur, bientôt me furent offertes. tête. Alors la terre est entrée dans mon cœur. La porte était grande.
C'est beau, hein?
Ouais, c'est beau.
Les oiseaux qui rentrent dans son cœur à Gilles El Greco,
oui.
C'est beau. Tu la connaissais, cette mélodie?
Je ne la connaissais pas, non.
Ah, ouais,
alors, il
n'y
a pas de Merle blanc, mais il y a plein d'autres merles
plein d'autres
que,
merles,
que
ouais.
le merle noir.
Ouais. Alors, en ce moment, les journées se rallongent au mois de janvier. On entend déjà quelques passereaux qui reviennent un petit peu siffloter dans nos jardins. Et comment faut-il faire quand on a un jardin arboré pour créer un refuge LPO dans son propre jardin?
En fait, il faut, je pense, se mettre à la place de ces animaux sauvages. Tant qu'on se dit c'est moi ou eux, ça marche pas. Quand on commence à se dire il y a des animaux qui peuvent vivre dans mon jardin, qu'est-ce que je pourrais faire pour leur faire une place? C'est à ce moment-là qu'on peut changer. Et donc on va se dire tiens, il y a des oiseaux, peut-être qu'il faut mettre des espèces locales, des arbres locaux et non pas un érable du Japon que nos oiseaux ne connaissent pas. On peut peut-être ne pas mettre surtout pas de pesticides pour éliminer les
sur
mauvaises
l'herbe,
herbes.
Sur l'herbe, tu veux dire, oui, bien
parce
sûr.
Que les oiseaux vont se nourrir d'insectes qui vont grandir sur les herbes qu'ils connaissent. Donc, tant qu'on met du poison, ça ne peut pas marcher. On peut aussi peut-être ne pas tondre son herbe à 3 cm tous les 15 jours. On va laisser peut-être un petit coin dans son jardin où on ne tond pas l'herbe.
Ah, c'est une bonne idée, ça.
Voilà,
ouais.
On peut mettre un petit tas de pierres où là, les lézards adoreront venir. On peut laisser un petit tas de branches où les hérissons vont pouvoir passer l'hiver. Il y a plein d'astuces et ces astuces, on a des fiches entières à vous donner.
Tu reviendras à la radio parce qu'on a tellement de choses à se raconter. Et quels sont les oiseaux qui annoncent le printemps? C'est pas que l'hirondelle des printemps.
Alors il y a l'hirondelle qui va revenir au mois d'avril, mais notre fameuse cigogne, elle va aussi revenir là en février.
Déjà en février.
Elle peut commencer à venir en février. En fait, tous ces oiseaux qui ont passé l'hiver dans des régions chaudes, elles vont revenir au printemps. Cette fois-ci, pas pour se nourrir, mais pour se reproduire. Et donc là, leur but, c'est de trouver un endroit pour pondre les œufs.
Il y en a plein, là, vers l'orangerie, il y a plein de nids de cigognes, là, on les voit revenir. D'ailleurs, il y a même maintenant des bus qui passent au ralenti, 15 bus pour regarder,
oui,
faire des photos.
Oui, c'est particulier, l'orangerie, c'est particulier, mais on va dire de manière générale, c'est le printemps, c'est la saison de reproduction, donc c'est le moment où les femelles pondent leurs œufs.
Et c'est aussi le moment où il faut mettre des nichoirs aux arbres pour les...
Alors, il faut le faire avant.
Ah, il faut le faire avant.
Et puis, les nichoirs...
Maintenant, c'est maintenant qu'il faut le faire en janvier.
Idéalement, c'est à l'automne. C'est à l'automne parce que les oiseaux vont repérer
les
endroits où ils pourront revenir au printemps. Mais si on ne l'a pas fait en automne, on peut le faire maintenant. Mais je précise juste une chose, c'est que ces nichoirs vont servir pour les oiseaux qui ont besoin d'un trou, mais pas ceux qui vont construire un nid.
Bien
donc
sûr,
c'est pour certaines
bien
espèces
bien
d'oiseaux
sûr.
Uniquement.
On peut juste rappeler, Cathy Zell, l'adresse de la LPO.
Physiquement, on est à Rosenviller, donc 1 rue du Viche. Et puis sinon, il y a toutes les informations sur notre site internet.
Très bien.
Alsace.lpo.fr.
En tout cas, Cathy, tu es souriante. Ça m'a fait plaisir de t'accueillir chez nous à Radio Judaïka. On voit que tu as l'habitude des micros et des oiseaux. Merci pour toutes les informations que tu nous as suggérées et proposées. En tout cas, un grand merci et je te souhaite une bonne et heureuse année.
Merci, André.
Et apprends à siffler comme un oiseau la prochaine fois. Bravo, merci beaucoup. Générique de fin.
Voilà, c'est fini. On a tant ressassé les mêmes théories. On a tellement tiré chacun de notre côté. Que voilà.